Chapitre 9. 1999. Je suis sortie presque en courant du magasin de souvenirs Inuit. J'ai rangé le galet dans la poche de mon jean sous le regard amusé de Florence. Puis je me suis engouffrée dans le magasin d'en face, une boutique de souvenirs plus classique avec son lot de drapeaux à feuilles d'érable, de sweatshirts de hockeyeurs et de caribous en peluche. Quelques minutes plus tard, j'en ressors avec une boule à paillettes faisant pleuvoir une neige étoilée sur le château Frontenac. C'est au moins plus réaliste d'un point de vue météorologique que les tempêtes de neige sur les pyramides d'Égypte ou le pain de sucre. La boule québécoise viendra rejoindre ma collection planétaire dans la bibliothèque du salon de Portejoie, devenue désormais celle de Laura. Dès que son papa a le dos tourné, ma petite chippie, haute comme trois pommes, passe son temps à escalader les étagères pour faire pleuvoir les étoiles sur chaque monument rapporté du bout du monde par sa maman. Je m'apprête à montrer mon trésor à Florence quand je me fige, manquant de glisser sur les pavés de la rue Saint-Paul. Le commandant Jean-Max Balin se tient en face, sortant de la boutique Inuit, sourire aux lèvres, tenant la main d'une très jolie jeune fille, cravate de collégienne, chemise de soie déboutonnée, jupe kilt courte et long bas de laine coloré, suivi d'un type beaucoup moins sexy, genre colosse bedonnant, qui pourrait être le père de la gamine. Impossible de dire s'ils nous ont remarqués. Ils tournent tous les trois vers la rue Bon Secours.
« Tu crois qu'il nous a entendus ?»
me demande Flo. Je renchéris.
« Tu crois qu'il nous espionnait ?»
Je réfléchis. Ai-je croisé cet homme et cette fille dans l'avion ? Non, j'en suis certaine. La fille en kilt est d'évidence une nouvelle conquête du commandant. Mais qui est ce type qui les accompagne à l'allure de bodyguard d'un parrain de la mafia ?
Ou il a juste eu peur qu'on le voie avec la petite ?
Propose Flo.
Pourquoi ? Il s'en fout, il a 40 ans, il est célibataire, la gamine doit être majeure.
Il entretient la tradition des marins version 7e ciel. Une femme dans chaque aéroport. Qu'il en profite, il ne sera pas toujours aussi beau gosse. J'ai toujours eu un faible pour le commandant Balin. Non pas qu'il m'ait attiré, je garde avec précaution mes distances depuis l'épisode de Tokyo. Mais j'admire sa façon d'assumer sa liberté.
Lui trouve pas trop d'excuses, réplique Flo. Méfie-toi de lui. Je l'ai toujours trouvé louche, ce joli cœur. Comme tous les hommes d'ailleurs, y compris ton menuisier un peu trop parfait. Sauve-toi, mon hirondelle, file plutôt retrouver ton joueur de banjo.
J'arrive essoufflée rue de Bleury. Je remonte presque en courant la rue Sainte-Catherine, tout en cherchant le fouf du regard. J'aperçois d'abord la grande enseigne du Métropolis, quelques mètres devant moi. Je pensais être en retard, j'ai quelques minutes d'avance. Lorsque j'atteins l'entrée du bar, je reste sans voix devant l'incroyable décor. Ce n'est pas un café, c'est un château hanté. Le fouf est le diminutif de « foufoune électrique ». Une araignée géante en commande la grille d'entrée, ainsi que deux gigantesques crânes d'ivoire. Le décor intérieur est à l'avenant. Murs de briques, graffes noirs et blancs, têtes décapitées, ambiance tantôt rouge sang, tantôt vert cadavre, qui doit devenir fluo disco et flashy zombie dès qu'arrive la nuit. Je comprends qu'il s'agit d'une institution pour les noctambules québécois. Le bar est d'ailleurs encore presque vide et aucune trace de mon guitariste. Un serveur dont la simplicité tranche avec la déco glauque me gratifie d'un grand sourire et me fait comprendre que je peux m'asseoir à n'importe quelle table. Elles aussi étonnamment banales, des chaises de plastique disparates disposées autour de guéridons en inox. Je m'assois près de la porte pour que mon guitariste ne puisse pas me manquer. Et presque immédiatement, je souris. La table est bancale. Un truc idiot que je déteste. Pourtant, dès que je pose mes fesses dans un restaurant ou un café, je tombe sur une table qui n'est pas stable. Ma petite malédiction personnelle. J'hésite à changer de place. Sur la trentaine de tables, il y en aura bien une qui tient sur ses quatre pieds. Ça m'occupera, ça m'évitera de penser à ce que je fais, à Olivier, à Laura.
Et si je n'en trouve aucune, je m'enfuirai. D'ailleurs, pourquoi ne pas commencer par cela, m'enfuir? Qu'est-ce que je fiche ici, à attendre un inconnu sous ces masques géants de monstres grimaçants accrochés au mur, dans ce décor d'épouvante pour punk adolescent? L'évidence surgit. Je suis en train de commettre la pire connerie de ma vie. La fuite m'apparaît soudain comme une urgence absolue. Je me lève.
Vous êtes déjà arrivé.
Mon guitariste se tient devant moi, lui aussi essoufflé, casquette de travers, écharpe au vent. Un pauvre air désolé et un sourire plus élargi que les grimaces des têtes de zombies, pourtant 10 fois plus grandes que lui.